merveilleuse sobriété de saint Marc. Si nous lisons saint Matthieu, saint Luc, ce récit de la tentation au désert est beaucoup plus développé. On nous révèle les trois tentations fondamentales. Ici, tout est dit avec une extrême sobriété. Mais c'est donc à nous de faire maintenant un chemin pour comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Il resta 40 jours tenté par le diable. Tout d'abord, il y a un lien pour les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Il y a un lien entre le baptême et la tentation au désert. Le baptême, c'est ce moment où il y a la révélation de la Trinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. L'Esprit sous la forme de la colombe, le Père à travers la voix et le Fils, Jésus de Nazareth révélé comme le Fils unique. Et puis, les cieux se déchirent. Tu es mon Fils bien-aimé, moi je trouve en toi ma joie. Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert. La langue grecque, bien souvent, est plus vive que la traduction qu'on en donne. Le grec dit mot à mot, Jésus fut chassé au désert par l'Esprit Saint. Et le verbe utilisé, ekbalo, c'est celui que Marc utilise lorsque Jésus chasse le démon hors des personnes. Autrement dit, chaque fois qu'on entend parler du Saint-Esprit, il faut voir qu'il y a une force, il y a un mouvement, quelque chose d'impétueux, impératif. Et Marc nous dit, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par le diable. Autrement dit, c'est le combat spirituel entre la lumière et les ténèbres. Et le Verbe de Dieu, nous le savons, a assumé notre nature humaine. Dans le baptême, il est révélé que cette nature humaine est bien Dieu, assumée par Dieu. Et c'est cette nature humaine assumée par Dieu, c'est ce Verbe éternel qui assume notre humanité en Jésus, qui va livrer ce combat contre le mal. Le combat spirituel est une composante de la vie du chrétien, ça n'est pas un accident. C'est une composante. Et nous connaissons tous la tentation. Seulement, quand on parle de tentation, il faut faire attention aux mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire tentation? Le mot utilisé, toujours dans la langue grecque, peut être compris avec plusieurs sens. Parce que tout dépend qui est celui qui tente. Un des premiers sens de ce mot tentation ou tenter, c'est essayer si une chose peut être faite, accomplie. C'est aussi essayer, éprouver dans le but de certifier une quantité. Par exemple, on soumet à la tentation au sens grec une cuve à gaz pour savoir si elle va pouvoir porter la pression qu'on veut lui mettre. Et si on veut la mettre, mettons, à 20 bars, on va la tenter à 25. Si elle résiste à 25, alors elle résistera longtemps à 20. Mais c'est aussi éprouver ce qu'est l'autre. On pourrait dire que le baccalauréat est une tentation. Au sens, c'est une épreuve pour permettre aux jeunes de savoir où il en est. Comment il se conduit. Mais évidemment, ça c'est dans un bon sens. Dans un sens mauvais, on peut aussi tenter pour éprouver avec malice l'autre et, si possible, éprouver sa foi, sa vertu, son caractère et, au bout, le solliciter à pécher, à tomber. Donc il nous faut impérativement bien comprendre tous ces sens. Le Seigneur nous met à l'épreuve. Alors on préfère dire mettre à l'épreuve que tenter, mais le Seigneur nous met à l'épreuve pour savoir si oui ou non nous avons bien marché ces 40 jours avec lui, parce qu'au terme, il y a une révélation de Dieu. Le Seigneur, nous le savons, nous a créés pour lui. Et il nous appelle tous à ce qu'on appelle la vie mystique, c'est-à-dire à une vie d'union intime avec lui, tous. Mais il est bien évident que tous ne vont pas jusque-là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est réprouvé de Dieu, mais ça veut simplement dire que dans notre marche avec le Seigneur, on a mis un terme, on a mis des limites. On n'a pas envie d'aller jusque à ses épousailles. Mais tous sont appelés. Le Concile Vatican II nous l'a rappelé avec force. Et puis, un Saint Jean de la Croix, une Thérèse d'Avila, un pape Jean-Paul II, etc., etc. Nous sommes faits pour cela. Mais le Seigneur nous respecte notre liberté. Alors, il nous met à l'épreuve, d'une certaine manière, pour savoir si, effectivement, on pourra aller jusque-là. L'union intime, le mariage de notre âme avec le Christ Jésus. Le mot « tentation » dans le monde actuel est fortement dévalué. Soit on le garde pour les enfants, on est tenté de manger des bonbons ou de la confiture, parfois même d'aller voler 2 euros dans le porte-monnaie des parents pour aller acheter des bonbons. Et du côté des adultes, on le réduit souvent à tout ce qui est de l'ordre sexuel. C'est merveilleusement exprimé dans cette émission ancienne de télé-réalité qui s'appelait « L'île de la tentation ». 4 couples non mariés sans enfants qui testaient leur amour l'un pour l'autre face à la tentation de 22 célibataires. Évidemment, quand on entend ça, on dit « le monde est tombé sur la tête ». Dans la Bible, c'est tout autre chose. C'est d'un autre ordre. Nous sommes tentés vis-à-vis de Dieu. Pas simplement vis-à-vis de la gloire et du pouvoir, mais vis-à-vis de Dieu lui-même. La tentation fondamentale pour le chrétien, elle porte sur la foi ou la non-foi. Plus exactement, pour nous croyants, la vraie tentation, celle que le démon utilise toujours pour nous, à un moment ou à un autre de notre vie de foi, elle porte sur l'accueil que nous faisons de la révélation que Dieu fait de lui-même et de la manière d'agir de Dieu dans le monde. Autrement dit, est-ce que j'accepte Dieu tel qu'il se révèle et tel qu'il agit? Est-ce que je ne suis pas déçu par Dieu? Seigneur, où es-tu? Tu dors? Regarde la misère dans le monde, que fais-tu? On peut se souvenir du tsunami en Asie du Sud-Est. Mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu n'empêches pas? Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu ne corriges pas le mal? Montre ta puissance. Jésus, montre quelle est la vraie Église. Et je peux très subtilement en venir à mépriser le Seigneur. On peut le rejeter dans le monde de la fable. Ou on peut être révolté. Fais des miracles. Fais des miracles. Montre qui tu es. Ou bien qui tu prétends être. Cela, dans le Premier Testament, c'est déjà un fil qui traverse tout le Premier Testament. Dans le psaume 94, que nous disons tous les matins à l'office, ce sont les premières paroles que nous prononçons. Il est dit au terme de ce psaume, « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi. Vos pères m'ont tenté, ils m'ont provoqué. » Le psaume 77, « Que de fois au désert !» Ils l'ont bravé, ils l'ont offensé dans les solitudes, ils tentaient Dieu, ils attristaient le Saint d'Israël. On voit ça aussi dans l'Évangile avec les Juifs qui viennent voir Jésus. Ils veulent le mettre à l'épreuve. Il lui demande un signe, montre ta puissance, montre qui tu es. Malheureusement, on voit cela aussi chez les apôtres, on voit cela chez notre saint Pierre. Lorsque Jésus commence à dire « Je vais souffrir beaucoup, je vais être rejeté par les anciens et par les grands prêtres, je vais être tué et mis à mort et ressuscité », Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Non, Seigneur, jamais !» Quelle est la parole de Jésus ?« Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, est-ce que je demande à Dieu des miracles, des interventions plus ou moins musclées, lorsqu'on est auprès de quelqu'un qu'on aime, qui est en train de mourir, surtout si la personne est jeune? Bien sûr qu'on attend un miracle et on a le droit de le demander, bien sûr, mais toujours avec cette souplesse du cœur, comme Jésus nous l'a enseigné à Gethsémani. Le grand combat de Jésus, c'est Gethsémani. Non pas ma volonté, mon Père, mais ta volonté à toi. Rappelons-nous, comme dit saint Paul, les Juifs réclament des signes, ils veulent des miracles. Les Grecs, eux, ils veulent une sagesse. Mais nous, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Crucifié parce que ça signifie apparemment totalement impuissant et même totalement vaincu. Face à cette tentation de faire descendre Jésus de la croix, regardons-le au désert. Il est seul. Il est seul face à lui-même. Il est seul face au diable, il est seul face à son Père. Et il nous donne non seulement la victoire, mais il nous donne une leçon, on pourrait dire. Cette leçon, c'est patience, confiance, endurance, constance. En grec, hupomone. C'est-à-dire garder sa position en dessous de quelque chose qui nous menace. C'est le courage à résister, la persévérance. On a chanté ce matin dans l'office des Laudes, en reprenant une parole d'un prophète, « La joie de Dieu est notre rempart ». C'est vrai. Ma propre joie, elle est parfois effondrée. Mais la joie de Dieu, qui nous regarde avec tellement d'amour et de tendresse, qui chemine à nos côtés à chaque instant, qui jamais ne nous laisse la main, parce que nous savons, nous sommes vivants, mais nous sommes vivants parce qu'il nous donne la vie, le mouvement et l'être. Et parce que, en nous voyant vaillamment essayer de faire face dans la constance, la patience et l'endurance, il nous donne cette capacité de participer au salut de nos frères et de nos sœurs. Ne cherchons pas à faire de Dieu un papa gâteau, un magicien qui réglerait tous nos problèmes par sa puissance. Où serait notre joie? Où serait notre dignité? On le disait mercredi en commençant le carême, Dieu qui nous a créés sans nous, ne nous sauve pas sans nous. Voilà notre grandeur, voilà notre dignité. Il nous donne de l'intérieur son Saint-Esprit pour faire face, pour faire face et pour devenir de plus en plus beau. Nous sommes de la famille des vertébrés, non pas des mollusques. Les parents le savent bien, qui ont la joie de mettre des enfants au monde. Il faut que les enfants reçoivent plaie et bosse. On apprend à marcher, on se casse le nez, on se fait un cocard ici, on met un caillou dans son oreille, il faut aller chez le médecin pour le récupérer, on se casse une dent, c'est normal, c'est comme ça qu'on devient un petit homme. Si maman, chaque fois qu'elle voyait son enfant risquer de tomber, elle le prendrait toujours dans ses bras et elle l'amènerait du sofa à la chaise pour manger, au lit, au sofa, ça ferait un mollusque. Bienheureuses épreuves qui nous permettent de découvrir qui nous sommes. Saint Jacques nous dit, frères et sœurs, considérez comme une joie extrême de buter sur toutes sortes d'épreuves, parce que cela vérifie la qualité de votre foi et cela produit l'hypomonaie, cela produit l'endurance. Puis encore un mot sur le désert, c'est pas simplement le lieu de la tentation, c'est aussi le lieu des épousailles, le lieu de l'amour, le lieu de la rencontre entre Dieu et la bien-aimée. Ainsi dans le livre d'Osée, où le Seigneur parle à Israël qui l'a abandonné, qui s'est montré comme une épouse infidèle, le Seigneur dit: mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner au désert, et là je lui parlerai cœur à cœur. Et en hébreu, on a même: je lui parlerai sur le cœur. On voit la tête du bien-aimé qui pose sur le cœur de sa bien-aimée. Et il lui parle. Et alors, je lui rendrai ses vignobles. Et je ferai du Val d'Accor, si se traduit le lieu de la déroute, j'en ferai la porte de l'espérance. Et alors, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse. Elle me dira: mon époux. Voilà ce que nous sommes invités à oser dire aujourd'hui au Seigneur. Ô toi, mon époux, époux de mon âme. Alors oui, je veux bien marcher 40 jours. 40 pour un juif, ça n'est pas mathématique. Ils ne sont pas cartésiens. 40, c'est symbolique. Lorsque vous dites 40 à un juif, aussitôt il pense 40 jours, 40 ans dans le désert, la libération de l'esclavage. 40 jours de Moïse qui va vers la montagne du Seigneur, donc pour aller à la rencontre de Dieu. Élie aussi, 40 jours, pareil, dans le désert pour être avec son Dieu. Le Seigneur est avec les bêtes sauvages, les anges le servent. Adam était aussi avec les bêtes sauvages. C'est donc le signe de l'ère messianique. C'est le moment qui est annoncé, cette bonne nouvelle que Jésus va annoncer. Le règne de Dieu s'est approché de vous. Convertissez-vous. Croyez à sa parole et méditez la parole de Dieu. Méditez l'évangile. Parce qu'il est parole de vie pour chacun de nous. Amen. Alléluia.